Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume de l'été. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir 5 août à l'actualité du cinéma, mais oui, avec les Haussiens en string de la critique, j'ai nommé Charlotte Lipinska, dont je vous rappelle qu'elle présente le Mac de l'été sur notre belle chaîne tous les jours de la semaine à 18h, de 18h à 19h, avec Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession, un peu outrageusement bronzé. Je ne sais pas d'où tu reviens.
C'est l'effet string.
Tu étais où en juillet?
Hein? Écoute, bah, j'ai itinéré, je suis allé dans des pays chauds comme
des
ça,
moites, très chauds,
accueillants.
Oui.
Voilà. C'est quand on voyage avec un string, on voyage léger.
C'est vrai, c'est vrai. Avec Nicolas Chalère de l'Obs, avec Michel Simon, Michael Simont. Lui-même, de positif. On parle ce soir des films d'Éric Zonka, de Richard Herr, de Julien Guetta, de Patricia Mazui, de Gustave Möller. Et puis on parlera aussi à la fin de l'émission, j'y tiens beaucoup, des nombreuses rééditions, certaines formidables, que l'été favorise dans le courrier de la semaine, qui porte sur des films qu'on a évoqués en juin et début juillet. Cathy Marnier de Nogent, désolé, Nicolas est très en colère contre un couteau dans le cœur. Yann Gonzalez a réalisé un véritable exploit, me faire quitter une salle de cinéma 10 minutes après le début du film, pour lequel j'avais tout de même payé 12 €. Tout est laid, surdoué, bêtement violent, avec une grosse musique qui fait peur. Et un corbeau pour dire qu'il va y avoir un crime. Dire que c'est affligeant ne suffit pas, c'est déplorable, indigne, moche, violent, mal écrit. Et la pauvre Vanessa Paradis fait ce qu'elle peut avec les dialogues ridicules de fausseté. On sent que le réalisateur a voulu un peu se prendre pour Zulawski dans L'importance est d'aimer. En tout cas, j'aimerais bien être remboursé. Pascal Blanchard de Lyon n'est pas plus tendre. Xavier, un couteau dans le cœur, encore un film, et c'est malheureusement de plus en plus fréquent, à la fin duquel on se dit « j'ai perdu mon temps ». Ce film est sans intérêt, non, chère critique, truffer un film de référence ne suffit pas à prouver que l'on est un cinéaste et un auteur de talent. Ce film est simplement grotesque et laid. Pascal Hénard de Bourg-les-Valence n'a pas aimé « Tully ». Avec Charlize Theron, film qu'on peut classer dans le genre, produit par l'actrice principale avec un enlaidissement pour avoir au moins la nomination à l'Oscar, est raté. Tout est cliché, la femme débordée, la fille à l'âge ingrat avec lunettes, le mari en mode ado dès la nuit tombée. Jason Reitman n'a même pas réussi à trouver un épilogue dramatique à son histoire truffée de poncifs. Voilà, sinon Laurent Weinberg de Bruxelles n'a pas aimé entendre 3 de nos critiques éreinté, et ça je suis bien d'accord, le pétillant à genoux, les gars d'Antoine Desrosières. Seules les voix de Daniel, Eman et Jérôme se sont un peu élevées pour défendre ce film. J'espère qu'elles auront été assez puissantes pour convaincre les gens d'aller le voir.
Michel aussi aimait beaucoup. On était...
Non, Michel était...
plus mitigé.
Il a vu que j'aimais plutôt, donc à la fin il s'est quand même un peu rallié.
Il s'est, mais... bon, il s'est mis à genoux.
Voilà.
C'est tout à fait bon.
Jean-Jacques Corriou, d'Aix-en-Provence, dans la mesure, ajoute-t-il, où je pense que ce film pourrait avoir un impact positif sur les jeunes en ce qui concerne les rapports entre filles et garçons, il est clair que je me situe dans le camp de celles et ceux qui y voient un film féministe. Par contre, je doute que ce film arrive à attirer ce type de public dans les salles. Il y a encore plein de lettres positives, et puis il y a aussi des gens comme toi, Nicolas, qui n'aime pas, comme M. Bressa, qui dit que c'est consternant de vulgarité et mortellement ennuyeux, ou encore Aurélien Péréol, qui a trouvé ce film abominable. Enfin, Alice Guittard de Paris nous interpelle. Mes chéris du dimanche soir, vous avez complètement craqué. Le film des Taviani, une question privée, est un pinsomme absolu dont France 3 ne voudrait pas, même pour ses samedis soirs, tant c'est mal joué, mal écrit, mal filmé. Internet dit que ça dure 1h27, j'ai vérifié. que ce n'était pas une faute de frappe, car on dirait que ça dure 7h21. Et Jocelyne, je me suis ennuyé au film des Taviani, je rappelle que l'un des deux est mort, pas après le masque, hein, mais simplement avant, dès les premières minutes et jusqu'à ce que je m'endorme, sans parler du caractère incrédible des reconstitutions de maquis, où les partisans ressemblent plus à des babas des années 70 qu'à des combattants de la deuxième guerre à éviter. Donc, selon moi, voilà, pas de commentaires sur le courrier, non ?
Non.
Non. Fleuve Noir, c'est un film qui est sorti le 18 juillet de l'étrange Éric Zonka. Je dis étrange parce que moi, j'ai du mal à suivre son parcours depuis l'excellent La vie rêvée des anges. C'était avec Natacha Régnier, Élodie Boucher, et c'était quand même il y a 20 ans. Après, il y a eu Le Petit Voleur, il y a eu Julia, et puis plus rien jusqu'à ce Fleuve Noir qui est une sorte de polar autour de la disparition d'un ado qui s'appelle Danny. Le commandant de police François Visconti est chargé de l'enquête, c'est Vincent Cassel qui s'est fait la barbe de Michel Simon dans Boudu sauvé des eaux. Visconti se voit proposer pour le seconder les services de Yann, ou si vous préférez de Romain Duris. Alors lui aussi barbu, je sais pas ce qu'ils ont, qui est l'énigmatique prof particulier de Dany. Et il faut aussi compter dans le rôle de la mère de Dany avec Sandrine Kiberlin, qui a déclaré à la radio avoir détesté le tournage de Fleuve Noir, sans en dire plus. C'est aussi avec Charles Berling, Jérôme Pouli, Avzia Herzi. Et là, Élodie Boucher des Anges, qui a un peu grandi. Mais il n'y a pas de Gérard Depardieu, qui lui aurait quitté le plateau au bout de 6 jours. Vous étiez au courant de ça ?
Ah, moi, je
ne sais pas ce qui s'est passé sur ce tournage.
Moi, je pensais que c'était 3 jours avant le tournage qu'il avait été remplacé par Cassel.
En fait, ça ne change pas grand-chose, mais apparemment, il y a eu des problèmes sur ce tournage. Entre Sandrine Kiberlin, pas contente, et... Bon, alors, nous, ce qu'on voit à la fin, oui, n'est pas totalement convaincant, non, Nicolas ?
C'est drôle de commencer parce que je pense que le film va être peu apprécié, alors que moi j'y ai plutôt pris un certain plaisir qui est peut-être un peu pervers, vous allez me dire.
Je comprendrai jamais rien à tes goûts.
Non, mais alors j'en attendais vraiment pas grand-chose. Moi, la dernière fois que j'avais Éric Zonka avait entre Julia et celui-là, il avait fait un téléfilm qui s'appelait Soldat Blanc,
oui, j'ai pas, sur l'Indochine. C'est pour ça que je l'ai pas cité.
Qui était quand même assez raté aussi, assez raté.
Oui.
Lapsus.
Oui, non, pardon.
Il y a eu un aussi.
Non, je parlais des précédents. Et là, moi, j'ai quand même pris un certain. Je trouve que déjà, il y a un certain panache à revenir après une telle absence avec un projet aussi, on va dire, bancal et incertain. Et moi, au final, j'ai pris un certain plaisir.
J'aime bien quand tu le défends.
Oui, oui. Oui. Non, mais...
Il les défend bien.
Ah, non, mais... Moi, je suis en train de changer
bancal
d'avis.
Bancal et incertain. Là, j'aime bien.
Mais moi, j'aime bien l'incertitude et j'aime bien être un peu malmené au cinéma et ne pas trop savoir ce que je vois. Et alors, pendant une partie du film...
C'est un AV quand même. Là, c'est simple. Oui.
Non, je suis pas d'accord. Moi, je me suis assez amusé pendant une partie du film à voir ces acteurs, on va dire, jouer des personnages assez pathétiques et qui tous s'amusent à jouer à être ceux qui ne seront jamais. C'est vraiment ce Vincent Cassel qui joue, qui a l'imperméable de Colombo et l'haleine de Philippe Marlowe, mais en gros c'est un peu la seule chose qu'il a de ces personnages de
l'haleine
privé,
parce de qu'il Philippe est Marlowe.
Oui, de oui Philippe Marlowe, le l'haleine d'Alcolo, c'est-à-dire que
tu l'as vu en
mais parce que
en 4D, bon,
parce qu'on comprend,
ça,
c'est
ça
quand même assez bien
quand même,
c'est, voilà, on comprend qu'il boit beaucoup, qu'il est, c'est tous les c'est tous les clichés du flic, mais en même temps il le fait avec non mais oui, ça va, je sens les.
Non, mais on n'aura plus rien à faire, on va te laisser seul, Nicolas. Tu
voilà.
Fais très bien.
Non, mais c'est assez cohérent.
Allez le voir.
C'est assez cohérent. Duris qui paraît jouer un petit prof qui donc pendant une grande partie du film. Alors je vais faire attention de ne pas divulgâcher encore une fois parce que là ce serait vraiment dommage. Mais voilà, tous ces petits personnages qui sont.
J'ai dit minimum. Hein, voilà, j'ai dit énigmatique prof.
Voilà, voilà. Et bon, qui s'imagine être, on va dire, un grand écrivain.
Oui, il dit voilà. L'écriture est ma prison.
Bon, voilà. Et alors, moi, je trouve qu'il travaille le pathétique des personnages avec une forme de.
Travaillez-le. Ah non, avec le pathétique.
Avec une forme de vraiment d'humour, je trouve. Et à la fin, le film nous glace parce que quand on revient dans la réalité des choses et à une révélation qui, pour le coup, est vraiment tragique et
non,
douloureuse.
Non, on ne sait pas.
Oui, je ne dirais rien.
On ne sait pas si elle est tragique. On ne sait pas.
Moi, j'aime bien ce décor de résidence moderne avec
bon,
ce bois
allez,
juste à côté qui travaille.
Allez,
moi, ça m'a un peu fait penser. Tout propos.
On va laisser parler tout le monde. Voilà.
Bon,
Xavier.
Bon. Moi, je vais donner raison à Nicolas. Il travaille le pathétique et il y arrive très bien. C'est un film profondément pathétique. Mais alors, il n'y a rien à sauver. Déjà, c'est adapté d'un roman qui était éminemment plus fin, plus subtil, plus délicat, qui était un roman de Dror Mishani, qui est un auteur israélien. Oui, oui, une inquiétante disparition, qui avait vraiment de la gueule, qui se passait à Tel Aviv. Ils ont rajouté une intrigue, le flic avec son fils, qui n'existait absolument pas. L'alcoolisme du flic n'existait pas, mais on n'est pas là pour cocher de toute façon les différences entre le roman et le film. On est là face à un film où tout le monde cabotine, caricature, on ne croit à rien. Il faut vous dire que cette barre d'immeuble, elle surplombe un bois où, évidemment, tous les garçons esselés se retrouvent le soir pour se soulager entre eux. Donc, pratiquement, vous mettez au balcon et vous voyez une grande partouze gay devant vos fenêtres. C'est-à-dire la crédibilité partout à laquelle participe à un moment des personnages pour essayer d'éprouver une réalité qui n'est pas la sienne. On hallucine devant tant de bêtises, devant tant de lourdeurs d'écriture. Ils ne se refusent rien, mais alors vraiment... rien du tout. Moi, c'est le film à divulgâcher, quoi. Il faut sauver les spectateurs. On n'a pas le droit de leur inciter d'une manière prudente. Non, je ne le ferai évidemment pas parce que j'ai une éthique. Mais quand même, ils vont nous casser la gueule s'ils y vont à cause de nous, quoi. Moi, on va prendre des coups. C'est ridiculement interprété. Alors, l'écrivain.
Mais qu'est-ce que fait Cassel dans ce film, par exemple?
Mais qu'est-ce qu'ils font tous? Mais qu'est-ce qu'ils font tous?
On sent qu'ils s'amusent.
Romain Duris, il joue un écrivain habité, comme ça, qui déclame tout le temps et qui prend de temps en temps des petites expressions perverses. Parce que peut-être qu'il sait des choses que les autres ignorent.
Il s'en amuse. Il y a un côté bouffon dans le film qu'il ne faut pas.
Mais oui, mais c'est pas intéressant parce que c'est un personnage effectivement manipulateur, ambigu, qui cherche à trouver sa place, qui va effectivement provoquer des choses à l'intérieur de l'enquête. Ça pourrait être vachement intéressant et c'est caricatural. Et le summum, c'est quand même une scène. Je ne dis vous cache rien, je vous rassure. Au moment où Vincent Cassel, qui a un petit atome crochu avec Sandrine Kiberlin, on va pas lui jeter la pierre, je pourrais avoir la même chose. La rencontre à un moment sous la pluie à 3h du matin, le cheveu hirsute, en train de bouger les bras sous la flotte dehors devant son immeuble. Première phrase de Vincent Cassel, ça va madame? Ah ben non, a priori pas quand même. Hein. Elle danse toute seule sous la flotte à 3h du matin,
c'est
je pense que...
de retirer du contexte
sans
comme ça.
Poser de diagnostic quand même. Et tout le film est comme bon. Ça. Les clichés sur clichés. Allez, le mari de Sandrine Kiberlin, il est marin, donc il est barbu et breton. Enfin, on a vraiment...
Charlotte et Michel, Charlotte.
Bah, c'est vrai que c'est un objet extrêmement curieux. Là où je comprends Nicolas, parce qu'il disait qu'il avait pris un certain plaisir à regarder ce film, c'est on peut parler un peu de plaisir coupable. Quoi. C'est-à-dire comme on pourrait lire un mauvais polar un dimanche quand on n'a rien à faire. Moi, je trouve que le problème principal, c'est que les acteurs ne jouent absolument pas dans le même film. C'est-à-dire que Vincent Cassel, alcoolo, poisseux, cabossé, il sort d'un film d'Abel Ferrara, et Romain Duris, il est chez Ozon en jouant le mec un peu effectivement manipulateur, intellectuel, tout ça tel que le décrivait Xavier. Et entre les deux, la rencontre ne se fait jamais. Et c'est vrai que on ne sait jamais s'il faut rire vraiment au premier ou au second degré. C'est-à-dire, est-ce qu'on rit du ridicule, du jeu outrancier des acteurs, ou si c'est véritablement voulu par Éric Zonka. Après, je trouve que à la fin, le film aborde un sujet intéressant et assez inattendu. Malheureusement, c'est complètement la fin. Donc, pour moi, je trouve que ça commence quand ça se termine véritablement. Il y avait un sujet qu'il ne traite pas.
C'est tout.
Mais il ne traite pas du tout. Il va effectivement dans cette caricature de polar poisseux auquel on ne croit absolument à rien. Et comme le disait Xavier, qui est bourré de clichés, il y a voilà un marin breton. Bah, il est roux avec une barbe et une marinière.
Ah bah oui, normal.
Non, c'est pas possible.
Comme on les reconnaît. Voilà. Nuit, hein.
Cela dit, je sauve un peu du nom.
Le titre du film, Fleuve Noir.
Voilà, et
fleuve
je sauve noir. Quand même de ce fleuve et de la noyade Sandrine Kiberlin et Élodie Boucher, que je trouve assez juste l'une et l'autre.
Alors, qu'est-ce qu'on pense du film à positif?
Beaucoup de bien. Je sais qu'il y a une rumeur autour de ce film, et d'ailleurs Zonka est le très mal aimé du cinéma français. Depuis La Vie rêvée des Anges,
il a fait des bons films,
depuis La Vie rêvée des Anges, qu'est-ce qu'il a fait de bien?
Le film en Amérique du Nord, de cette femme qui partait en cavale avec ses deux enfants,
Julia
qui était à la Cassavetes, qui est un film. Alors évidemment, il est en désaccord avec l'air du temps, parce que c'est un homme qui croit aux passions, qui croit aux excès. Il filme les corps, il y a une intensité dans ce film. Alors même l'intrigue n'est pas très intéressante, mais moi les grands polars, c'est pas l'intrigue qui m'intéresse, c'est l'atmosphère, c'est les situations, c'est les personnages. Je trouve que les comédiens ici sont remarquables. Je trouve que Romain Duris, par exemple, dans ce rôle de professeur très sophistiqué, esthète, etc., est étonnant. Sandrine Kiberlin, peut-être qu'elle s'est pas entendue sur le tournage, mais ça ne paraît pas. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs au cinéma, où des acteurs n'aiment pas alors qu'ils sont très bons. Et je trouve que ce film est vraiment un film sur la passion, encore une fois, sur le physique. C'est un film excessif. On peut en rire comme le fait Xavier, on peut se moquer très facilement de ce film, c'est très très facile, mais je trouve pas du tout que ce soit un mauvais film. Et quand je vois un film aussi lamentable que Un couteau dans le cœur, qui est en compétition à Cannes, qui a des éloges dans toute la presse branchée, des pages et des pages devant ce film nul.
Je te rassure, on a eu Eric Nohoff au Masque et la Plume, oui, qui a dit ce qu'il en
bon,
pensait.
Eh bien, je recommence ce qu'a dit Eric. Quand on voit des acteurs, la pauvre Vanessa Paradis qui est complètement à côté de la plaque, et que ce film est encensé et qu'il est en compétition à Cannes, et d'un autre côté, le sort qu'on réserve à Zonka, je trouve ça profondément injuste.
Juste pour finir, moi, ça m'a rappelé, toute proportion gardée, mais ça m'a rappelé un peu la tonalité qu'on pouvait trouver dans Série Noire.
Mais là, je t'ai pas donné la parole.
Non, mais je voulais juste cette espèce de bouffonnerie tragique de Série Noire.
Ah oui, non,
c'est le débat, attendez. Mais voilà,
pour donner une idée de la tonalité. Grosse proportion gardée, c'est-à-dire rien à voir quand même entre Cassel et Devers.
Nos auditeurs ont compris que les avis étaient assez tranchés. À propos de Fleuve Noir, donc le film d'Éric Zonka. Après Éric Zonka, autre parcours, singulier, c'est celui de la cinéaste Patricia Mazui, à qui on doit notamment Saint-Cyr, que j'avais beaucoup aimé, avec Isabelle Huppert. Après, c'était plus improbable, Basse Normandie et Sport de filles. Et pourtant, j'ai un faible pour ces deux derniers, puisque ce sont à la fois des odes à la Normandie, à la Basse Normandie et à l'équitation. Et donc voici Sans cheval, sinon un vieux cheval de retour, Paul Sanchez est revenu, un film sorti également le 18 juillet avec Laurent Lafitte dans le rôle de Paul Sanchez, un criminel qui à la manière sordide de Dupont de Ligonnès a assassiné sa femme et ses quatre enfants. On ne sait toujours pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, hein, Dupont de Ligonnès.
Il nous écoute peut-être.
Je pense qu'il nous écoute. Je pense qu'il est fan du Masque et la Plume. Or, après avoir disparu depuis 10 ans, on l'aurait vu, je parle de Paul Sanchez, hein, au volant d'une estafette de marchand de piscine près de la gare des Arcs dans le Var, ce qui laisse évidemment très sceptique les enquêteurs, sauf Marion, qui est une jeune gendarme de 25 ans, Zita Enro, je vous rappelle César du meilleur espoir féminin pour Fatima, qui va se mettre à traquer seul Paul Sanchez. Alors, est-ce que c'est un vrai ou un faux thriller? Je me pose quand même la question. Michel, qu'est-ce que tu en as pensé?
Bon, d'abord, c'est encore un film sur une disparition. Là, c'est quelqu'un qui revient. À Cannes, il y avait 7 ou 8 films d'enfants, de femmes qui disparaissaient.
Tu vois une tendance
lourde. Le Zonka également, c'est un jeune garçon qui disparaît. Mais il y a beaucoup de disparitions dans le cinéma cette année, je ne sais pas pourquoi.
Mais dans le Yann Gonzalez, il y a aussi beaucoup de disparitions. Hein.
Oui, le film disparaît aussi lui-même. Mais en tout cas, le film de Patricia Mazui est très ambitieux parce qu'elle essaye de faire un mixte très difficile entre effectivement une sorte de thriller avec le monde d'en haut, avec ce bandit qui revient, etc., dans la montagne, et puis les gens d'en bas, c'est-à-dire un commissariat de police. Mais alors, ça se voudrait un peu les frères Cohen, et c'est un peu entre un film policier et puis le gendarme de Saint-Tropez. Quoi. C'est gendarmes dans leur...
Ça, c'est méchant, ça.
Oui, parce que le film n'est pas réussi. Elle réussit pas à trouver justement ce ton, ce que les Cohen font évidemment de façon magistrale. Elle a voulu faire quelque chose d'ambitieux dans le cinéma français, qui est ce mixte, et je trouve que le mixte ne fonctionne pas. Mais je trouve en même temps le personnage de cette jeune femme qui croit que c'est la chance de sa vie, qu'elle va s'imposer, qu'elle va vraiment, elle y croit, elle, alors que autour d'elle tout le monde est sceptique. C'était un beau sujet, malheureusement je trouve.
De même que le sujet de ce Sanchez, enfin, ou ce Ligonnès, était aussi un beau sujet à creuser, et j'ai pas trouvé ça très convaincant. Charlotte.
Moi, je suis aussi assez admirative du ton singulier du film, qui, comme le dit Michel, est pas totalement réussi, mais avait le mérite d'être essayé. Il y a deux choses assez essentielles, je trouve, dans l'esthétique de ce film. D'abord, c'est que...
T'aimes tout ce soir?
Ben oui, non mais c'est les vacances, c'est l'été, vous savez, je reviens de vacances, on est de bonne humeur. D'abord, ça se situe aux Arcs, donc petite ville de province, non mais avec des ronds-points, des zones industrielles, et elle filme ça. Non mais là, il y en a vraiment beaucoup, ce qui est quand même pas très cinégénique, c'est pas très sexy à l'écran, et elle arrive, je trouve, à en faire quelque chose, et c'est par ailleurs porté par la musique de John Cale, ce qui est très très étonnante dans le film, parce que c'est une espèce de free jazz un peu dissonant, un peu agressif, qui nous maintient dans un état d'alerte permanent, moi je trouve, quand même sur l'attention. Et d'ailleurs, la musique est tellement singulière que la bande-annonce du film est faite avec une autre musique, une musique beaucoup plus polar, thriller, film d'action habituel, alors que là, dans le film, il y a une identité sonore très très particulière. Je trouve que la rencontre de ces deux personnages, et notamment cette jeune fliquette qui est un peu naïve, elle n'est pas idiote, mais elle est un peu lente à la compréhension.
Elle est obstinée au moins.
Elle est obstinée, mais voilà, c'est pas une rapide. Elle arrive, Zita Enro, à créer vraiment ce personnage assez étonnant qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des polars français où effectivement les flics, soit ils sont divorcés, alcooliques, soit c'est des super enquêteurs. Bah là, non, c'est une petite fliquette de province un peu entre les deux. Mais là où je rejoins Michel, c'est qu'il y a des scènes de comédie sur le quotidien d'un commissariat de province qui tranchent assez radicalement avec la tension qu'elle essaye d'instaurer. Et là, ça ne prend pas vraiment. Cela dit,
Moi, j'ai un petit problème personnel, c'est que j'ai vu le film le lendemain du jour où j'avais vu en projection le film de Pierre Scholler où Laurent Lafitte joue Louis XVI,
oui.
Et j'ai du mal à passer de Louis XVI
c'est votre problème de...
Tu l'as vu aussi, je crois, le film de Scholler. Xavier.
Ah, moi, j'ai de la chance que tu vois, quand j'ai vu Vincent Cassel dans le très mauvais film d'Éric Zonka, Fleuve Noir, le lendemain, je l'ai vu dans le film de Romain Gavras et j'ai fait la distinction. J'ai voilà. pas mélangé les deux personnages.
Le monde est à toi, là, qui sort la semaine prochaine.
On est d'accord, c'est pas un film complètement accompli, mais son échec, entre guillemets, parce que moi j'aime plutôt le film, est à la hauteur de son ambition et de son envie de mélanger les gens. Et c'est quand même plutôt malin, et c'est quand même plutôt pertinent, et c'est quand même plutôt intelligent. C'est-à-dire que vous l'avez dit, c'est à la fois un thriller, c'est aussi un western, il y a quelque chose de cela dans la fin du film qui est assez prenante quand même, qui est assez anxiogène. Il y a une utilisation des espaces qui ramène vraiment là à l'histoire du western, les grands espaces, avec, comme l'a très bien dit, je sais plus qui d'ailleurs, la hauteur et Michel, le point culminant où se réfugie éventuellement Paul Sanchez, et puis ces flics. Il y a la sociologie de cette petite ville, du commissariat, qui est un prisme où se rencontrent à la fois les petits drames et les grosses tragédies de l'existence. Et puis, cette fliquesse qui veut absolument y croire, qui veut absolument se persuader que Paul Sanchez est revenu, c'est l'enquête de sa vie, elle s'obsède elle-même, c'est la chance de sa vie, elle entraîne aussi un journaliste qui est à la recherche du scoop. Et peu à peu, il se passe vraiment quelque chose. Sur le personnage absent de Paul Sanchez, dont on ne sait rien, Nicolas Lafitte, qui est assez impressionnant dans le film.
Laurent, excuse-moi.
Ces espaces, effectivement, ces bords de route. Alors, effectivement, oui, des ronds-points, il y en a partout. Mais tu as raison, elle filme quelque chose, effectivement, assez minéral, de ces routes où on marche. Elle arrive vraiment à créer une ambiance, elle arrive vraiment à créer quelque chose d'anxiogène, une tension, je suis entièrement d'accord, que Zonka n'arrivait pas du tout à instaurer, par exemple, dans Fleuve Noir.
Ça reste un film un peu artisanal, il faut aussi dire la vérité.
Eh ben, c'est pas désagréable.
Mais c'est ambitieux.
D'accord, j'ai pas dit que c'était parfait, mais il y a énormément d'envie, de désir, d'ambition et des choses réussies.
Et il y a juste une toute petite chose, l'un des meilleurs, je trouve, second rôle qu'on ait vu récemment, c'est Annelise Emberger qui joue l'ex-femme de Lafitte et qui est absolument démente.
Et à la fin, elle est... Oui, moi, je suis un peu dans une ligne un peu médiane comme ça où je suis pas très convaincu au final par le film parce que je le trouve en plus assez laid. Moi, j'ai vraiment le travail sur l'image vidéo, je trouve très plat. Je trouve le film assez ingrat et je trouve qu'il y a des problèmes de rupture de ton, tout ça. Mais en même temps, un peu comme le Zonka, je trouve qu'on est, on se plaint tellement souvent de la tiédeur du cinéma français que je trouve la proposition, assez vraiment intéressante et je trouve que sur le contemporain, ça dit vraiment sur les fake news, sur la misère sociale, il y a quelque chose de, je trouve quelque chose de très contemporain et très fort dans le film derrière, qui s'améliore quand même au fur et à mesure. Oui, mais il y a vraiment un problème de rupture, il y a vraiment un problème d'équilibre de tonalité, d'ambition. Moi, l'humour m'a fait un peu penser à Petit Quinquin, mais en moins maîtrisé. Le commissariat, la peinture du commissariat, cette espèce d'humour un peu à froid, à tône.
C'est le grotesque.
Oui.
C'est le génie du grotesque.
Oui, mais dans l'humour à tône, dans des choses qui devraient pas être drôles et qui en fait, qui essaient de l'être. Enfin, et puis dans ce côté très très banal de ce commissariat.
On va parler après d'un commissariat et d'un vrai polar.
Oui, c'est très différent.
Donc voilà, je sens la différence.
Je suis pas convaincu, mais je trouve la proposition pas négligeable.
Paul Sanchez est revenu et c'est signé Patricia Mazui. Vous ne me retirez pas de l'idée quand même que elle a un parcours étrange quand même. Je parle de ses films depuis
absolument
atypique, insolite.
Et c'est par ailleurs une excellente comédienne. On la voit de plus en plus dans des seconds rôles. Elle est formidable.
Un polar, je disais, un vrai polar. venu du Nord, sorti la même semaine, le 18 juillet. C'est The Guilty, le premier long métrage d'un Danois de 30 ans qui s'appelle Gustav Møller, qui est un huis clos dans un centre d'appel d'urgence de la police de Copenhague, le 112,
qui commence exactement comme un documentaire. L'agent Asger Holmes, c'est Jacob Cedergren, prend l'appel d'une femme qui vient d'être enlevée. Elle est enfermée dans une voiture, elle demande de l'aide. Et puis la communication est coupée brutalement. La vie d'une femme est en train de se jouer, de manière d'ailleurs assez horrible. Et on ne va jamais quitter le centre. Asger va gérer cette affaire très compliquée. Et nous, tenter de la comprendre, de l'imaginer, en tout cas uniquement à partir des appels téléphoniques d'Asger. Donc, il n'y a rien à voir, tout à entendre, et ça dure 1h25, donc c'est très court. L'idée excellente est aussi, évidemment, un pied de nez au cinéma et à l'époque du tout image. J'ai vraiment été impressionné, surtout en sachant que c'était un premier film. Xavier.
Je trouve que c'est un film de procédé plutôt malin, plutôt prenant, mais qui s'oublie vraiment dès qu'on a quitté la salle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris qu'on quitterait pas le lieu où se passerait cette conversation téléphonique, une fois qu'on a été très attentif au dialogue et que du coup on a un peu levé la résolution avant tout le monde quand même, il y a... Je ne vais pas le dire ici, mais il y a un élément...
Je te demande de rien dire.
Mais je ne dis jamais rien. Je ne dis jamais rien. Il y a quand même clairement à un moment un élément de dialogue qui nous donne la solution et on est à 20 minutes du début du film. Donc il faut un tout petit peu nourrir la bête. Les films pendus au téléphone.
Non, là c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Non, il y a
plus. Quel élément de dialogue ?
Non, c'est pas vrai.
Tu ne l'auras pas sur ce terrain-là, Nicolas Chalère. Je te vois venir. Je vous le dirai après l'émission pour ne rien divulguer, mais il y a quand même clairement un élément de dialogue que l'on entend dans le film. C'est la petite fille qui le dit et qui nous fait effectivement penser qu'il y a peut-être.
Déjà, tu parles de petite fille, ce qu'on avait évité jusqu'à présent.
Oui, absolument.
Les films pendus au téléphone où on est menacé, inquiété, il y en a eu quand même à la peine.
Tout au téléphone ? 1h25 ?
On a eu Ryan Gosling ou Ryan Phillippe qui était buried, voilà, qui était enterré. On a vu Barbara Stanwyck aussi, qui est pendue toute la nuit au téléphone, dans un vieux film des années 30, pareil, où elle était menacée par un type qui voulait absolument lui faire la peau. Alors, oui, effectivement, passe.
En général, c'était pas bon. Pour le coup, cette fois-ci, c'est quand même meilleur.
Ça reste quand même un film de procédé. On sent que le scénario distille les informations les unes après les autres, de manière à ce qu'effectivement, il ne pose pas toujours les très bonnes questions, le flic, donc, enfin, celui qui reçoit l'appel. Donc, du coup, l'enquête n'avance pas tant que ça. On est pris, mais il y a un moment quand on reconstitue le puzzle en sortant de la salle, terminer là-dessus, de manière à laisser les défenseurs prendre la parole, on se dit que c'est un peu artificiel.
Moi, j'ai trouvé ce film très étonnant. C'est vrai qu'on a vu tellement de films, être encore étonné par un film dont moi, j'aime pas trop les films à dispositif. Ils me fatiguent très vite. Alors que là, c'est un film à dispositif qui est totalement réussi. Alors, le metteur en scène a dit une phrase, je crois que les images les plus fortes d'un film sont celles qu'on ne voit pas. Même Bresson n'aurait pas osé dire ça. Et je trouve que c'est prouvé par le film, c'est-à-dire que on voit ce commissaire qui n'est pas intéressé finalement par tout ce qui se passe, ce flic qui est dans son, il reçoit des appels de toute la ville, on imagine tout ce qui se passe, tous les accidents, les meurtres, etc. qui se passent dans la ville, il s'intéresse pas tellement aux victimes, mais une femme disparaît encore une fois. Et du coup, il est stimulé par cette découverte. Moi, j'ai été constamment saisi par les trouvailles, par le fait de tenir pendant une heure et demie le spectateur et de faire travailler, comme tu dis, l'imagination constamment. Et c'est un film sur une bande-son absolument formidable, avec un seul acteur, un seul, un décor, un seul. Et c'est très étonnant.
Et sans qu'on s'ennuie. Et sans
qu'on s'ennuie pas du tout. C'est un film très étonnant. Je ne sais pas ce que le cinéaste Gustave Möller va faire, mais en tout cas, c'est très prometteur.
Nicolas.
Oui, moi je suis assez d'accord. Je trouve que c'est un film sur le hors-champ, sur la subjectivité et les préjugés de spectateurs de nous-mêmes face à ce qui se joue.
J'en dis pas trop, Nicolas.
J'en dis pas trop. Et moi, le film a vraiment.
T'as parlé de. Voilà. Franchement.
Après.
Si vous m'énervez, je vais la balancer la phrase, et vous prendrez les lettres des auditeurs.
Voilà. Moi, pour être honnête, il y a des petits moments, moi, où dans le deuxième tiers, où je trouve que ça manque un peu de peps et que ça fait travailler l'imaginaire. Voilà. Et le troisième tiers. Et en même temps, le troisième tiers est tellement fort et ça devient vraiment un film sur. Parce que le type est pas sympathique.
Enfin, le quatrième tiers est magnifique, t'es d'accord.
Ah, c'est le meilleur. C'est sûr, on refait le film. Ce qui est beau, c'est que sur la fin, on comprend que c'est. Parce que le type, on n'a pas trop d'accroche ni affective ni psychologique envers ce personnage, c'est quand même assez antipathique pendant un moment. Et puis à la fin, on comprend que c'est un film sur le rachat de quelqu'un, sur un rapport à la culpabilité. Et là, tout se forme et c'est vraiment. Ça devient.
Et là, il dit rien.
Je dis rien.
Non, c'est le titre.
Et voilà. Donc, et puis c'est le premier film où qu'on peut regarder en grande partie en fermant les yeux. ce qui est quand même intéressant.
Ça s'appelle la radio.
Ah, oui.
Ça tombe bien, Olivier. Dans les années 50, il y avait des pièces radiophoniques avec des
bruiteurs. Mais si tu ouvres les yeux,
c'est toc toc.
Si tu ouvres les yeux dans la dernière demi-heure, il y en a encore. Il faut l'ouvrir dans la dernière demi-heure, c'est là que le jeu de l'acteur intervient. Non, mais c'est. Enfin voilà, on comprend que la vie ne tient qu'à un coup de fil finalement.
Charlotte.
Bravo. Moi, je prends les quatre quarts du film. J'adore quoi, vraiment. J'ai été.
Tu vois, elle est bien quand même, Charlotte, au mois d'août quand même, parce que tout est formidable.
Tout d'un coup, oui. Non, mais celui-là particulièrement, c'est le troisième polar dont on parle ce soir. Le film est quasiment en temps réel. Et ce que je trouve très fort, effectivement, on a tous parlé du huis clos et voilà, c'est que on réfléchit au même moment et dans le même temps que le héros. Et même si effectivement il ne pose pas forcément toutes les bonnes questions pour résoudre l'enquête, il pose franchement celles qu'on se poserait, enfin celles que se pose le spectateur. Et donc moi j'étais en empathie totale avec lui, même s'il n'est pas très sympathique, un peu froid et parfois à côté de la plaque, jusqu'à avoir un vrai sentiment de claustrophobie. C'est-à-dire que moi quand j'ai vu le film, vraiment j'étais enfermée avec lui dans cette petite cellule des appels d'urgence. Dès que le téléphone vibrait, j'étais complètement sur mes nerfs parce qu'on se dit, putain, ah, décroche, dès que ça tombe sur une boîte vocale, on est catastrophé. Et je trouve que le scénario ménage suffisamment, c'est-à-dire qu'il distille les infos petit à petit et ménage suffisamment de rebondissements ou de suspense pour qu'on soit vraiment tenu du début à la fin sans s'ennuyer une seconde.
C'est The Guilty et c'est signé Gustav Möller, dont c'est, je le rappelle, le premier long métrage. Il faut toujours un film d'été. Là, il s'appelle Rouler Jeunesse. Il fait d'ailleurs le même temps, à 1h25. Et c'est le premier long métrage de Julien Guetta. Je ne sais pas s'il a un rapport avec David Guetta, avec Bernard Guetta.
Je ne crois pas.
Non, c'est une question.
Lui, il a beaucoup en musique.
Qui est sorti le 25 juillet avec Éric Judor, Laure Calamy, Brigitte Rouen, Philippe Duquesne et Éric Judor, l'ex, bien sûr, d'Éric et Ramzy. C'est le brave Alex, qui est un dépanneur auto de 43 ans, style Saint-Bernard, qui travaille dans le garage dirigé par sa maman, très acariâtre, la maman, appelée pour venir en aide à une jeune femme en panne, dans tous les sens du terme. Il est vrai qu'il faut dire qu'elle a confondu le diesel et l'essence, qu'il faut éviter, même pendant l'été. Alex se retrouve à finir dans le lit de cette femme en panne. Le problème, c'est que le lendemain matin, la belle s'est fait la belle, et il se retrouve avec deux enfants sur les bras, dont un bébé, et bientôt leur grande sœur. Pour un mec qui a du mal à gérer sa vie, c'est évidemment un peu compliqué. Et on se dit que le dépanneur aurait besoin d'être dépanné. Alors, est-ce que cette comédie d'été vous a plu ? On va commencer avec Michel.
Moi, c'est un peu un homme et trois couffins, ou presque, parce que la jeune, la troisième est une adolescente.
La grande pour un couffin,
effectivement. Elle a du mal à alors là encore, une femme disparaît. Excusez-moi, mais c'est à nouveau le
thème. C'est pas un peu obsessionnel,
tu vois. Non, mais c'est vrai.
Non, mais constate que tout le monde disparaît dans le cinéma. Donc une femme disparaît. Moi, j'ai trouvé ce film avec un ton très comédie de l'été. Je sais pas, non, parce que je trouve qu'il cède pas aux facilités. C'est le côté évidemment naturaliste d'un certain cinéma français, une sorte de tranche de vie avec des personnages bien écrits, des comédiens. Éric Judor est formidable. Moi, j'ai trouvé ça plein d'idées comme ça, d'idées de dialogue, d'idées de situation avec ce garagiste dépanneur, avec cette mère autoritaire, etc. Bon, voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur le film, mais je trouve que ça m'a plutôt diverti.
C'est ça,
je trouve qu'il y a une certaine légèreté.
On n'a pas grand-chose à dire non plus.
Non, mais il y a une certaine légèreté. Oui, c'est
Xavier...
pas du tout.
Si on peut dire quand même que dans le panorama de la comédie française, c'est une bonne surprise, parce qu'il y a un dispositif, il y a une idée de départ, qu'elle est développée intelligemment et qu'elle ne s'étiole pas au bout de deux minutes, qu'il y a des vrais personnages, Michel l'a très bien dit, très joliment écrit, très joliment campé, c'est-à-dire qu'il y a de la finesse dans l'écriture, il y a de la finesse dans l'interprétation, et la mère, tu l'as dit, elle est acariâtre, mais elle est aussi terriblement attachante, c'est-à-dire que dès que Brigitte Rouen s'empare de quelque chose, elle en fait...
Elle est possessive et intrusive.
De l'or. Éric Judor, spécialiste de l'humour un peu auto-ironique, un peu maso, est encore formidable là-dedans. Il a 43 ans, il vit chez maman, mais à côté quand même, il essaie de s'affranchir. Mais c'est pas non plus la caricature d'un Tanguy ou d'un personnage qu'il n'a pas réussi à quitter. Et je trouve que l'écriture évolue constamment. C'est-à-dire qu'au début, c'est du comique de situation, un peu de répétition, effectivement. Il va secourir des gens sur des bords d'autoroute. C'est toujours des situations un peu cocasses, des emmerdeurs.
Après aussi, non enfin...
Ah ben non, parce qu'après, il va chercher la comédie dans une situation qui pourrait être beaucoup plus grinçante, beaucoup plus tragique. C'est-à-dire que comment ce type qui veut se débarrasser des deux enfants, alors il arrive à mettre celui qui a 7-8 ans à l'école, mais il reste avec le bébé. Et il y a une scène formidablement et filmé et écrit, où il essaye de se débarrasser du gamin, de le laisser là où personne n'en veut, c'est-à-dire certainement pas l'école élémentaire, et il est capable de laisser un bébé comme ça dans la rue.
Il essaie de les passer entre les grilles de l'école.
C'est pas Nadine Labaki, heureusement, parce que sinon elle en aurait fait 8 jours, mais dans son très mauvais film, Capharnaüm, sur lequel nous reviendrons. Mais voilà, et je trouve que les situations tragiques, il en fait quelque chose d'une comédie tendre, malicieuse, un peu grinçante. Il y a une vraie fin, il y a une vraie... La mère, on va découvrir pourquoi est-ce qu'elle a disparu, je ne le cache pas. Mais c'est aussi quelque chose d'un peu tragique, d'un peu émouvant. Et le diapason, il est constamment tenu, et c'est pas systématique comme comédie, mais je vois que Nicolas Chaleur veut prendre la parole, veut s'emparer du
micro. C'est du cinéma de télé, un peu, non? Vous trouvez pas
Non, je
trouve bien indulgent, là, en plein été.
Non, mais c'est un premier film. Je trouve qu'au début, il y a un petit ton un peu de BD, avec des petites vignettes comme ça, assez malines, un montage assez malin, notamment de différents clients de la dépanneuse, et un dialogue alterné qui est plutôt assez amusant. Et puis, le film, il y a vraiment des gradations, et ça va vers quelque chose de quand même moins drôle au final. Mm-hmm. Et au fond, tous les personnages sont quand même assez meurtris, et voire dépressifs. Il y a quand même un des collègues, il essaie de refiler le bébé à n'importe qui, notamment à ses collègues du garage. Il y en a un qui lui dit non, je peux pas, j'ai une tête de pédophile avec un bébé dans les bras. Et quand même des choses très drôles et pas si drôles et assez noires. C'est pas le film de l'année, mais pour un premier film, en plus
un premier film, s'il te plaît.
C'est un peu effectivement, c'est un peu.
Il y a beaucoup de grands premiers films, il faut le répéter tout le temps.
Oui, mais non, mais c'est juste.
D'ailleurs,
pour,
on en aura peut-être un dans le conseil, Michel. Chose.
Mais en plus, le type, je trouve, a très bon goût en musique et il nous sort des morceaux de Queen ou de Nick Cage.
Oui, il n'abandonne pas ses personnages.
Voilà, enfin, on sent que qu'il a vraiment bon goût, ce jeune cinéaste, et on a envie de voir ce qu'il va faire après. Et Jude Orr, je trouve qu'il construit une film, en tout cas un vrai personnage dans le cinéma français, avec où il apporte beaucoup de nuances dans celui-là, où il montre une patte. C'est toujours le type lâche, mais là, il y a vraiment c'est un type qui essaie de bien faire, alors qu'avant c'était quand même
un super bon
acteur. Et il est vraiment très bien.
Charles,
il est vraiment
très bien.
Oui, moi je rejoins mes camarades. Je trouve le film extrêmement bien écrit. Bah oui, vous rigolez, Jérôme, mais on va pas bouder notre plaisir quand il y a une comédie française de ce niveau-là, qui est une comédie apparemment, mais avec un fond social quand même assez noir, assez plus difficile. Et effectivement, comme le disaient Nicolas et Xavier,
c'est quoi le fond social, c'est la vie des dépanneurs, non, c'est quoi?
La famille, la vie de la mère, et ses trois enfants, et c'est l'assistante sociale et tout ça. C'est pas forcément.
Toi, tu préfères les trucs qui se passent au micro dans un micro pendant une heure.
Rose, quoi. Donc c'était les frères Dardenne, voilà, nous auraient fait Rosetta. Là, il y a un peu plus comédie avec ça, là. Mais oui, et le film est bien écrit, effectivement tous les seconds rôles sont extrêmement bien campés, même sur des petites vignettes ils arrivent à exister, et on passe un très joli moment.
Roulez jeunesse, c'est donc le film de Julien Guetta, et on termine avec My Lady, un film sorti mercredi dernier de Richard Eyre, cinéaste britannique, qui a au moins une qualité que j'ignorais avant, c'est qu'il a été anobli par la reine d'Angleterre. Vous savez ça?
Non, pas du tout.
Voilà, c'est pour ça que tu viens en masque.
Tu veux dire que ça me bouleverse? Non, mais...
Si, je crois que tu étais très royaliste, non? Non?
Bien sûr.
Et c'est avec la toujours formidable Emma Thompson, qu'on n'avait pas vue dans un rôle marquant depuis quelque temps, et avec le non moins formidable Stanley Tucci, inoubliable bras droit de Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada. Ici, Tucci et Jack, le mari fatigué, pour ne pas dire d'ailleurs exaspéré, de Fiona, c'est donc Emma Thompson, juge impérial de la haute cour, à qui on donne, ça je ne savais pas, respectueusement, du My Lady, et dont la vie est tout entière occupée par son boulot et les jugements qu'elle prononce. Voilà. Et Jack est tellement exaspéré qu'il annonce à sa femme qu'il va la tromper. Alors elle bouge pas, la Thompson, elle est impeccable, et elle se consacre encore davantage à son métier, et plus particulièrement au cas d'un ado dont les jours sont comptés s'il ne reçoit pas en urgence une transfusion sanguine. Or, les parents du garçon sont des témoins de Jéhovah, ils refusent qu'on donne à leur fils le sang d'un autre, et la juge, Fiona, donc Emma Thompson, doit statuer. Bref, il y a d'abord un film sur le couple en crise, qui devient ensuite un film plus mélo, il faut dire, sur un garçon en sursis. Et c'est l'adaptation, alors libre, puisque moi j'avais lu le roman, du roman de Ian McEwan, L'intérêt de l'enfant, qui fait référence d'ailleurs à une loi de 1989, selon laquelle l'intérêt de l'enfant doit être la première considération de la Cour de justice. Charlotte.
Bah, vous l'avez dit, Jérôme, avec la toujours impeccable Emma Thompson, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même vraiment l'atout number one du film.
Mais ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu.
Absolument.
Et avec un rôle conséquent.
Absolument fabuleuse, fascinante. Je la trouve extrêmement fine dans son jeu. Et c'est Le film démarre avec effectivement ce couple qui bat un peu de l'aile, elle se consacrant à son travail et voilà. Et avec cette rencontre après avec cet adolescent qui est donc lui-même témoin de Jéhovah et qui refuse la transfusion. Malheureusement, je trouve que la dernière partie plus mélo, alors pareil, on va pas la divulgâcher, là ne tient pas la route. Puis alors vraiment, il pleut, il y a des violons, de la musique. Enfin,
c'est
on
en Angleterre.
Peut plus.
Hein.
C'est en Angleterre, mais c'est très lourd dans la description de ces rapports-là. Mais néanmoins, je trouve que quand même la majeure partie du film dresse un très beau portrait de femme et surtout a essayé d'ausculter.
Mais lui est bien, Jack aussi.
Les deux sont très très bien.
Il est très bien, Jack.
Mais le film ausculte la manière dont des événements de la sphère intime et personnelle vont finalement influer sur des décisions professionnelles et qui sont par ailleurs des décisions publique, voire politique, c'est-à-dire que les jugements qu'elle rend, elle les juge aux affaires familiales, donc ce sont des affaires où il s'agit d'enfants, c'est jamais coupable ou innocent, c'est toujours des êtres en souffrance, des histoires d'ailleurs, d'amour, de familles déchirées.
Ces petits procès très rapides sont très bien montrés, je trouve, au début.
C'est extrêmement bien montré,
c'est en rafale,
voilà.
Rythme
et on sent qu'elle-même, traversant une situation personnelle compliquée avec son époux, voit ses affaires avec un filtre un petit peu différent.
Sans pour autant broncher.
Et sans broncher, sans pour autant forcément s'adoucir, mais on voit comment des petites failles se creusent et vont, non pas altérer son jugement, mais en tout cas être pris en compte. Et en ça, je trouve le film assez fin et intelligent, plus que sur
Xavier.
La fin.
Je vais être vraiment d'accord avec Charlotte et avec toi, Jérôme. Moi, j'avais lu le bouquin, je le retrouve dans la première heure,
voilà.
Où effectivement, cette mécanique de la justice, de l'intime, est très fidèle, avec ces petites séquences un peu sèches. Il faut rendre le jugement. Elle chante, enfin, elle fait du violon avec un de ses collègues. Et c'est des scènes comme ça. On sent la femme qui maîtrise tout, qui est en retenue de tout. Elle a un assistant qui lui apporte le thé avec les petits gâteaux. Et voilà, le bouquin était comme ça. C'est-à-dire la froideur du jugement, une froideur qui lui est intimée par la gravité, effectivement, de ce gamin qui pourrait mourir s'il n'a pas sa transfusion. Malheureusement, Ian McEwan a choisi pour la dernière partie, en s'adaptant lui-même, de tomber un peu dans les travers du mélo consensuel, du mélo guimauve. Et il est moins convaincant, c'est très clair. Mais pendant une heure, on a vraiment un film qui est à la hauteur du livre, qui était pour moi un très très bon bouquin, et qui vraiment restitue ce portrait complexe d'une femme qui a traité des choses éminemment complexes, douloureuses, difficiles, et qui en même temps doit le faire. Et je trouve que cette idée, voilà, du devoir, entre guillemets, y compris le devoir conjugal, puisqu'il y a quand même quelque chose de ça aussi, de la tenue de la famille, ça fonctionne extrêmement bien.
Michel.
Oui, non, je disais que le film de Patricia Mazui n'arrivait pas à raccorder finalement les deux tons, et je trouve que si, c'est très réussi. C'est-à-dire que, effectivement, au début, on est un peu désorienté parce qu'on a des premières séquences remarquables sur la vie d'un couple qui se défait. Et ensuite, d'un seul coup, cette femme se passionne pour ce jeune garçon qu'elle n'a pas eu. Et on se rend compte que c'est une des raisons aussi de peut-être que son couple bat de l'aile parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Et donc, elle raccorde la deuxième.
Il faut dire que ce garçon est formidablement attachant et qu'il court après elle. C'est lui qui va la chercher. Hein.
Absolument. Et je trouve que c'est la qualité française, qualité anglaise. On se moquait inutilement de la qualité française, comme si la qualité était un défaut en art. Mais là, on a affaire à la qualité anglaise. C'est-à-dire, effectivement, c'est mieux que le cercle littéraire de Guernesey dont on a parlé il y a un mois. Mais il y a cette qualité extraordinaire des comédiens, de l'écriture. Bon, c'est pas du tout du grand cinéma, bien sûr, c'est pas du cinéma révolutionnaire,
non,
ça n'apporte
efficace.
Pas grand-chose. Mais on est là pendant une heure et demie, scotché, parce que on voit une très grande actrice dans un très beau sujet qui a deux aspects. Moi, ça m'a pas trop gêné, cet aspect mélo que vous reprochez au film. Je n'ai pas trouvé que c'était...
Et puis je persiste et signe, on ne la voit pas assez, je trouvais, Matt Thompson.
Oui. Mais alors pourquoi ça s'appelle... Bon, je sais que dans le film, on l'appelle My Lady, mais enfin, pourquoi Gallimard n'hésite pas à appeler ça l'intérêt de l'enfant, dans la traduction, c'est The Children Act en anglais, et pourquoi nous, on n'est pas capable de trouver un titre...
C'était le premier titre, hein.
Oui.
Ils ont changé de l'intérêt de l'enfant en My Lady.
Oui, voilà. J'ai pas compris parce que l'intérêt de l'enfant est un très beau titre.
C'est le titre qu'on donne au juge.
Oui, peut-être, mais c'est pas l'esprit du film. Bah, c'est l'intérêt de l'enfant.
Nicolas.
Je vais pas rajouter grand chose. Moi, je suis vraiment impressionné par Stanley Tucci que je trouve exceptionnel. Et j'ai des petites réserves sur Emma Thompson, moi, sur la fin, au moment où elle donne un concert,
mais
un moment assez crucial.
C'est à cause de la fin, ça.
Oui, c'est-à-dire que le film vraiment sombre.
C'est pas elle.
Et c'est là qu'on voit que c'est pas un homme de cinéma, que c'est vraiment, je pense que
François Richard est
plutôt là. Un homme de théâtre. Et c'est là que voilà, on sent vraiment, il tient pas son film jusqu'au bout. Moi, j'étais aussi passionné par ce qu'on voit aussi du quotidien du juge et des bureaux qui donnent directement. Il y a comme une coursive, comme un coulisse,
sur la cour.
Comme un coulisse de théâtre, une coulisse de théâtre. Et comme si
les petits rituels,
et on passe directement de, mais de, en quelques pas, on doit être en représentation et tenir son. Et je trouve que vraiment sur le métier de juge,
qu'elle enchaîne en rafale.
Elle vit sur place en plus. Elle vit dans la cour de justice.
La question de la morale et de la justice. En plus, il y a aussi tout l'aspect religieux et de toute cette chape religieuse qui est toujours là au Royaume-Uni et qu'on sent encore très prégnante. Et voilà, je trouve, le film est vraiment passionnant. Il y a plein de sujets passionnants et malheureusement, il prend le couloir, le plus réducteur sur la fin. Et alors, les scènes de mélo de fin avec la pluie et la pauvre Emma Thompson qui a les cheveux dégoulinants, ça, c'est plus possible.
Enfin, la reine ne manque pas d'air d'anoblir ce metteur en scène.
Oui, oh.
My Lady, c'est donc le film de Richard Eyre. Et je vous l'avais dit, j'ai gardé un tout petit peu de temps, quelques minutes, pour qu'on évoque quand même certaines de ces rééditions. Je rappelle rapidement que le 4 juillet est ressorti le journal d'un curé de campagne de Bresson, le Bergman, l'œil du serpent, un film de Varda que je ne connaissais pas, l'une chante, l'autre pas, que le 18 juillet sont sortis le film de Denis Hopper, l'Aura nue de Nicolas Ferrari, The Party de Blake Edwards, le 25 juillet Blood Simple des frères Cohen, et surtout une rétrospective au Zoo, une Robert Haricot. Et je sais, c'est une sortie qui a été faite pour Michel Simon et pour Positif, c'est la ressortie le 1er août du gendarme de Saint-Tropez de Jean Giraud. Je crois que vous êtes d'ailleurs, vous étiez tous, toute l'équipe de Positif
à la
projection.
C'est
remasterisé, je crois.
Ah bah alors,
c'est un autre gendarme, c'est plus le même. Quoi. Voilà. Donc dites-moi ce que vous avez envie de conseiller, évidemment, à nos auditeurs. Et on va commencer avec
alors,
Michel.
Mon esprit de contradiction, je vais parler d'un film, un très très formidable premier film chinois, Une pluie sans fin, de Dang Yue.
Non, ne riez pas, c'est le grand film de l'année.
Qui a eu le grand prix à Beaune, comme The Guilty. D'ailleurs, c'est les deux films, deux grandes révélations de Beaune, du Festival du film policier, deux polars. C'est un film qui fait penser au premier Kurosawa. C'est un film en pleine, d'une pluie intense, pendant une heure et demie, ou deux heures, on est sous la pluie tout le temps. C'est un thriller poisseux avec.
C'est ça que tu veux qu'on aille voir cet été?
Des personnages. Oui, mais s'il va faire très chaud, donc les gens aimeront avoir cette
pluie d'attente. Non, mais Michel a
raison. C'est un film très étonnant sur la recherche d'un tueur en série avec un personnage qui est un gardien d'usine et qui propose ses services à la police. Et j'ai trouvé le film absolument étonnant avec ses ouvriers, ses prostituées. C'est un monde qui grouille dans une cité industrielle. Un premier film vraiment tout à fait stupéfiant.
Donc je t'arrête une seconde. Donc alors, pareil, Xavier, toi, tu penses
moi, j'ai trouvé ça formidable. Michel a raison. On est en 97, quelques mois avant la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et tout le monde rêve encore de Hong Kong. C'est l'histoire d'un gardien d'usine qui se rêve policier. Et la fin, on dirait du jazanké. C'est-à-dire, c'est la destruction du monde prolétaire, du stakhanovisme chinois, la dénonciation de cette époque-là. Et en même temps, c'est un vrai polar.
Mais c'est pas trop plus vieux pour qu'on
non, non, c'est, ah non, c'est un film exceptionnel. Une pluie sans fin. Et comme on est tout de même, vous voulez parler des reprises, alors les 10 films d'Ozu que Carlotta ressort en salle. Je signale d'ailleurs que dans une grande revue anglaise, Sight and Sound, on a interrogé les metteurs en scène du monde entier pour dire quels sont les plus grands films de l'histoire du cinéma. Numéro 2, 2001, l'Odyssée de l'espace, ce qui me ravit. Numéro 1, alors je ne sais plus si c'est fin d'automne, fin d'été, printemps précoce, enfin c'était un film d'Ozu qui était le plus grand film pour les metteurs en scène de l'histoire du cinéma. Donc allez voir Ozu.
2001, dont on célèbre, je rappelle, le jubilé cette année, et avec aussi, je le signale, l'apparition d'un livre passionnant, Kubrick avant Kubrick, sur le Kubrick d'avant, quand il était photographe. C'est aux éditions Tachène. Alors, la réédition ou les rééditions selon Nicolas Chalère.
Alors, moi, je vais commencer avec un film que ressort aussi Carlotta, qui s'appelle, qui est un film d'Edward Yang, qui est un cinéaste taïwanais.
Sorti salle.
Et ça sortira après, je pense, en DVD.
Mais aux yeux aussi, c'est en salle.
Oui. Et donc, Edward Yang, qu'on a un peu oublié, donc c'est un film qu'il a tourné en 92. On se souvient de lui, son dernier film, Edward Yang est mort en 2009, si je dis pas de bêtises, dans ces eaux-là. Son dernier film qui était Yi Yi en 2000 avait eu, ou 2001 avait eu le prix de la mise en scène à Cannes, qui était peut-être un de ses plus beaux films. Et là, c'est vraiment un film de jeunesse, enfin un film de sur sa jeunesse, qui est sorti en 92. C'est la version intégrale qui sort. Jusqu'ici, le film faisait 3h, 3h5. Et là, il fait 4 heures. Ah. Et non, mais les 4 heures,
j'allais dire après passe, la pluie, là, ou...
C'est un chef-d'œuvre.
C'est vraiment très très beau. Alors, Edward Yang raconte en fait, s'inspire beaucoup de sa jeunesse, raconte à Taipei l'histoire d'étudiants dans un quartier d'étudiants qui sont en fait venus de Chine au moment où la Chine est devenue communiste. Et donc c'est cette enclave il y a à la fois un côté à la fureur de vivre avec des bandes de jeunes qui se forment. Il y a quelque chose sur la famille parce que c'est vraiment une fresque, mais une fresque d'une douceur. J'allais dire, c'est la douceur du souvenir déjà mélancolique, quoi. Il y a quelque chose dans le film de très très beau. Il y a un réalisme. On a vraiment l'impression d'être à l'époque. C'est ça qui est bluffant dans le film.
C'est un grand film.
Voilà, c'est vraiment un très grand film. Donc, ça s'appelle A Brighter Summer Day. Il faut absolument voir. Et réhabilité. Enfin, réhabilité, c'est pas comme s'il avait été.
Je vois que tout le monde s'exprime.
Mais voilà, et donc Edward Yang, A Brighter Summer Day, le 8 août.
Voilà. Et donc, Charlotte.
Alors, après tous ces polars et ces films noirs, moi, j'ai envie de parler de peut-être la meilleure, la plus grande comédie de tous les temps.
Le gendarme nous a attrapé.
Alors, juste au-dessus, à peine. Non, The Party de Black Edwards, donc, qui vient de ressortir. Donc, film de 68, c'est la troisième collaboration de Black Edwards avec Peter Sellers, et je crois qu'ils en ont fait 7, il me semble, en tout. Jamais après ce film, ils n'auront atteint autant de symbiose, on va dire, et de niveau de chef-d'œuvre total. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, je rappelle que c'est un comédien indien qui est engagé comme figurant sur un gros tournage, le tournage d'un remake, et il fait exploser par erreur l'énorme décor. Le producteur est furieux, il est viré, blacklisté, et par un quiproquo, il se retrouve invité à la grande soirée de la maison de production et du producteur. Et là, catastrophe, maladresse, enfin une espèce de catastrophe en chaîne, ça va virer au fiasco total. Donc on démarre par une explosion et puis ça se termine avec un poulet dans un chignon, tout le monde à la piscine, rythmé par la musique de Henry Mancini. C'est une des plus grandes bandes originales peut-être de tous les temps, un film vraiment irrésistible, burlesque, pop aussi, sur la pop culture qu'il faut absolument voir ou revoir.
Et sur le racisme aussi, c'est assez
absolument, oui, aussi.
Sur le racisme d'Hollywood et de l'industrie
et
du cinéma, c'est assez
comédien, chaque figurant est source de gags dans ce film. Vraiment,
avant
c'est
de donner la parole à Xavier, juste une question technique. Quand on parle de réédition de l'été, c'est donc toutes les salles de France ou c'est difficile
qu'on
dise la vérité à nos auditeurs.
Ça dépend des sorties, mais aujourd'hui, c'est quand même ça marche de mieux en mieux. D'accord. Souvent, les reprises marchent vraiment bien. Donc, souvent, quand le travail est bien fait, que
les exploitants copies circulent quand même.
Normalement, oui.
C'est pas uniquement au Champollion.
Non.
Ok, d'accord. Le conseil de Xavier pour finir.
Eh ben, Michel parlait de Ozu tout à l'heure, effectivement, avec les reprises de Carlotta. Moi, je recommanderais Le Goût du Riz au Thé Vert, que je trouve absolument magnifique dans cette rétrospective. Un autre cinéaste japonais qui a mes faveurs, que j'aime tendrement, c'est Shohei Imamura. Et on a ressorti La Ballade de Narayama, sa première Palme d'Or, puisqu'il en a eu deux. Il fut récipiendaire de deux Palmes d'Or. C'est une adaptation d'un roman très connu au Japon, qui avait déjà été adapté dans les années 50. Et puis, il adapte donc l'histoire de cette femme qui a 69 ans. Dans un an, son fils va la mener en haut de la montagne pour y mourir. Il va l'abandonner. Elle a un an pour régler les problèmes, pour les régler.
C'est un film magnifique.
Faire le saut de tronc de sa vie. Imamura est un immense cinéaste, sans doute un des plus grands du cinéma japonais. On a ressorti il y a peu de temps La Femme Insecte. On ressortira dans une dizaine de jours, d'ailleurs le 25, très exactement, Profond Désir des Dieux, qu'il a réalisé en 68, qui est un chef-d'œuvre absolu, nous sommes d'accord avec Michel. De toute façon, il n'y a rien acheté chez Imamura, mais La Ballade de Narayama est peut-être le film le plus accessible, entre guillemets. Il y a une narration, il y a une émotion, c'est bouleversant, et c'est un cinéaste profondément passionnant, profondément humain, profondément politique,
et sexuel.
Indispensable.
Et sexuel, et truculent, et sexuel.
Oui, moi j'arrête de dire sexuel parce que tout le monde croit que je suis un priapique obsédé. Donc,
ça aussi.
Tu es un priapique obsédé.
Et j'ai beau le dire chaque semaine, ça n'a absolument rien changé à ma disette sexuelle.
Pourtant, t'es en string.
Je vous appelle du pied à chaque fois et rien.
Est-ce que c'est un cri d'âme?
Pas une proposition. Bah oui, c'est désespéré.
C'est un cri du mois d'août ou pas?
Ah bah là, oui.
Tous ces conseils, y compris, donc vous avez le gendarme de Saint-Tropez, c'est.
Avec Patrice Lafont.
Mais oui.
Mais bien sûr, il drague la fille musique de Louis de Funès. C'est tu n'as pas vu le film. Il est dans le premier plan en train de chanter « Do you, Saint-Tropez ».
Avec Geneviève Grade. Oh,
tu peux me le refaire, ça?
Écoute, Jean-Sac.
Tu peux me le refaire. « Do you,
Saint-Tropez ».
Voilà.
Ben ouais, c'est le générique de notre enfance.
C'est le film qu'on connaît le mieux, donc on va parler.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup. Charlotte Lipinska, qu'on retrouve demain en direct pour le Mac de l'été, en direct depuis le Festival de cinéma de Locarno. Merci Xavier Le Herpeur, Michel Simon, Nicolas Chalère pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir au Sacha Guitry à la technique, et je les remercie, Julien Doumain, Ketar Bouklifa et Emmanuel Armingue. La réalisation était signée Didier Lagarde. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume aura lieu le jeudi 16 août à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions. L'une consacrée à la littérature et l'autre au cinéma. Dans une semaine, parce que pour vous servir, le Masque continue tout l'été, on parlera des livres de l'été à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.